je vois planter un peu d'amour.
Bonjour Victoria, Alexis Gagnon au micro. Bonne fin d'après-midi en ce jeudi 6 octobre, où que vous soyez, en voiture, à la maison ou au travail. Bienvenue dans le débrief. Ça commence tout de suite sur le coup de 16 heures. On a actuellement un temps maussade avec un petit 12 degrés à Victoria. Je vous renseigne sur la météo détaillée dans quelques minutes, juste après les bulletins de Denis Lépine. On vous réserve aussi, comme à l'habitude, le bulletin des Nations Unies, les nouvelles provinciales et bien d'autres infos. Et plus tard dans l'émission, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la sénatrice Claudette Tardif, une franco-albertaine d'origine, qui a rendu visite à CILS-FM plus tôt aujourd'hui. Restez à l'écoute, cette entrevue avec la sénatrice sera diffusée vers 16h40. C'est parti, bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. C'est au Canada qu'aura lieu le 14e atelier sur les cartels du réseau international de la concurrence. Le Bureau de la concurrence du Canada accueillera des représentants de plus de 50 organismes d'application du droit de la concurrence du monde entier à Ottawa l'an prochain. Le réseau invitera également des intervenants de la communauté des marchés publics et prendra part à des discussions d'experts. Les dates précises de la conférence annuelle de 2 jours seront fixées plus tard. L'événement mettra l'accent sur la lutte contre le trucage des offres dans les marchés publics. Les assemblées annuelles de 2016 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se poursuivent cette semaine. Le ministre canadien des Finances, Bill Morneau, y fait d'ailleurs la promotion de l'approche du Canada en matière d'économie. Le ministre Morneau a dit qu'il est important que la croissance économique profite à la classe moyenne partout dans le monde. Il a dit aussi que le Canada est maintenant largement reconnu comme un modèle pour le monde entier. Le FMI a reconnu récemment que le Canada était l'un de ses partenaires les plus dynamiques et un exemple à suivre. Aux États-Unis, Donald Trump et Hillary Clinton poursuivent leurs préparations en vue de leur débat télévisé de dimanche. Le second face-à-face se fera sous la formule de rencontre municipale. La cinquantaine de personnes sur place pourra poser des questions aux deux candidats à la présidence. Les derniers sondages d'opinion donnent l'avantage à l'ancienne secrétaire d'État. C'est aujourd'hui qu'a lieu le sommet des intervenants d'anciens combattants Canada et le ministre des anciens combattants Ken Eyre est sur place. Plus de 100 représentants de groupes d'intervenants des vétérans sont également attendus pour l'événement qui abordera des questions touchant plusieurs facettes de la vie des vétérans. Les discussions sont prévues à l'hôtel Hilton du lac Lémy près d'Ottawa. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, participe aujourd'hui à une discussion informelle dans le cadre du Forum public sur les Grands Lacs. Son homologue de l'Ontario, Glenn Murray, et l'ambassadeur des États-Unis au Canada, Bruce Amon, prennent part également à la discussion. Cameron Davis, conseiller principal à l'Agence de la protection environnementale des États-Unis, a lui aussi confirmé sa présence. L'événement se tient au centre Allstream à Toronto. Dossier de l'ouragan Matthew, la Croix-Rouge canadienne a décidé de venir en aide aux gens qui ont été touchés par l'ouragan de catégorie 4 dans les Caraïbes. Ossam El-Sharkawi, membre de la direction de la Croix-Rouge canadienne, a confirmé que des employés et des bénévoles de la Croix-Rouge se sont mobilisés dans les Caraïbes en Amérique centrale, ainsi qu'aux quatre coins du globe, afin de venir en aide sur le champ aux personnes dans le besoin. Il a ajouté que Matthew a semé la destruction et chamboulé la vie de milliers de gens. Les résidents canadiens sont donc invités à faire un don. Le comité d'experts chargé d'examiner les processus d'évaluation environnementale poursuit sa série d'activités de mobilisation. Depuis le 19 septembre, le comité d'experts parcourt le pays pour écouter les points de vue des peuples autochtones, des intervenants et de tous les Canadiens au sujet des processus fédéraux d'évaluation. Les rencontres se poursuivent jusqu'au 15 décembre. Le comité a indiqué que les commentaires recueillis en personne et en ligne vont contribuer à orienter son examen. Un rapport comprenant des recommandations sera remis à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique en janvier prochain. Eh bien, il sera possible pour les consommateurs canadiens dorénavant de savoir d'où vient leur saumon ou encore leur thon. Cloverleaf a dévoilé son programme de traçage que la compagnie qualifie d'unique. Le programme permettra aux gens de connaître le cheminement de leur thon ou encore de leur saumon de l'océan à leur assiette. L'entreprise a fait savoir que le programme Retracer ma prise a été conçu pour donner aux consommateurs un niveau transparent sans précédent concernant l'approvisionnement et ses processus de production. Au sport, au baseball majeur, eh bien, match des meilleurs deuxièmes dans la Ligue nationale et victoire de San Francisco 3-0 contre les Mets de New York. Et début aujourd'hui des séries de division dans l'américaine, Toronto, Texas et Cleveland-Boston. Au hockey, match pré-saison gain notamment pour la Caroline, Détroit et Washington. Ce soir, eh bien, Toronto sera à Montréal, Winnipeg à Edmonton et Vancouver recevra Calgary. Dans la NFL, une rencontre ce soir, les Cardinals de l'Arizona seront à San Francisco pour affronter les 49ers. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu à Edmonton le sommet sportif du Commonwealth 2016.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 à Victoria. On commence par la météo et par cet avertissement de vent fort dans la région du Grand Victoria. C'est un avertissement émis par Environnement Canada aujourd'hui en début d'après-midi. Donc il y a une dépression au large de l'île de Vancouver actuellement. Elle se dirige vers nous. Ça va apporter des vents forts d'environ 80 km. Heure sur l'île de Vancouver. Donc ça inclut Victoria, les îles du Golfe, l'île de Vancouver Est et la Sunshine Coast. Donc à savoir pour les prochaines heures, c'est important d'être au courant de cette information. Si il pleut et que vous êtes sur la voie publique, il se peut que votre parapluie soit malmené par ce vent. On a actuellement 13 degrés au port de Victoria. On a eu de la pluie au cours des dernières heures. Ça continue d'être maussade dans le ciel de Victoria actuellement. C'est 12 degrés au centre-ville et 12 degrés également du côté de l'aéroport à proximité de Sydney. Donc ça reste ainsi pour les prochaines heures. On aura de la pluie en soirée, ça va s'intensifier et les vents, comme je vous le disais, vont se mettre de la partie. Demain, on aura un petit dégagement, un mélange soleil-nuage, mais la probabilité d'averse, donc demain, vendredi 7 octobre, va demeurer de 30% avec un maximum de 15. Et pour samedi 8 octobre, la pluie reste bien en selle, bien en place sur la région de Victoria, un maximum de 13 degrés pour samedi. Ensuite, dimanche 9 octobre, un maximum de 14 degrés et rien ne change, ce sera toujours maussade avec de la pluie. Donc le soleil devrait revenir, cependant ce sera après le week-end en date du lundi 10 octobre. On se déplace maintenant vers le bulletin quotidien des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté dans une dizaine de minutes pour les nouvelles du jour.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre Antonio Guterres officiellement recommandé pour devenir le prochain secrétaire général. Staffan de Mistura appelle les djihadistes à quitter l'Est d'Alep. Ban Ki-moon annonce l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Gros plan sur la situation en Haïti après le cyclone Matthew, il serait aussi question du problème de l'agisme. C'est officiel. Le Conseil de sécurité a recommandé ce jeudi à l'Assemblée générale de nommer le Portugais Antonio Guterres pour prendre la succession de Ban Ki-moon en tant que secrétaire général de l'ONU pour un mandat de 5 ans à compter du 1er janvier 2017. L'adoption de la résolution du Conseil de sécurité s'est faite par acclamation lors d'une réunion à huis clos. L'élection par l'Assemblée générale est prévue la semaine prochaine. Intervenant ce matin devant la presse, le représentant de la Russie qui préside le Conseil de sécurité ce mois-ci a expliqué pourquoi les 15 avaient été séduits par la candidature de l'ancien haut-commissaire pour les réfugiés. On écoute Vitaly Churkin.
Le processus a été vraiment juste. Nous avons encouragé la présentation de candidatures par des femmes. 50% des candidats étaient des femmes, du début du processus jusqu'au dernier vote indicatif. Mais au final, il y avait un accord général parmi les membres du Conseil de sécurité et au-delà que ce qui importe le plus est d'avoir le meilleur candidat possible. Et le meilleur candidat s'est avéré être Antonio Guterres. Il a beaucoup de solides qualités. Tout d'abord, il a d'importantes qualifications onusiennes, ayant été haut-commissaire pour les réfugiés pendant 10 ans, je crois. Et en tant que haut-commissaire pour les réfugiés, il a parcouru le monde et a vu certains des conflits les plus horribles dont nous devons nous occuper. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un homme politique de haut niveau. Il a été Premier ministre de son pays et c'est quelqu'un qui parle avec tout le monde, qui écoute tout le monde, qui dit ce qu'il pense, une personne très ouverte et pleine d'entrain. Donc je pense que c'est un très bon choix et je suis content que nous nous soyons ralliés autour de M. Guterres.
I'm glad that we rallied around Mr. Guterres.
Personne ne peut nier que nous sommes en mode d'urgence en ce qui concerne le conflit en Syrie. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Lors d'une conférence de presse à Genève, Staffan de Mistura a notamment averti que si le niveau de violence actuel continue, la ville d'Alep sera détruite d'ici 2 mois à 2 mois et demi. Le point avec Alpha Diallo.
I'm therefore asking publicly al-Nusra.
C'est un appel inhabituel dans les couloirs du Palais des Nations à Genève. Ce jeudi, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie s'est adressé aux combattants de Fatah al-Sham, leur demandant de quitter l'est d'Alep. Staffan de Mistura s'est même dit prêt à s'y rendre pour escorter physiquement hors de la ville les combattants djihadistes qui s'y trouveraient afin de faire cesser les bombardements russes syriens. Le diplomate italo-suédois s'est demandé si la présence des 900 combattants de l'ex-front al-Nusra dans les zones sous contrôle insurgé de la ville n'offrait pas un alibi facile à l'entreprise de destruction de ces quartiers par les forces pro-gouvernementales. D'après ses estimations, en plus de ces milliers de djihadistes, 8000 combattants insurgés au maximum assurent présentement la défense d'Alep Est. Staffan de Mistura a aussi exhorté la Russie et le gouvernement syrien à annoncer sans délai qu'ils mettront fin au bombardement d'Alep Est dès que les djihadistes en seront partis. S'ils s'y refusent, alors l'histoire jugera que Moscou et Damas se sont servis de leur présence comme d'un alibi pour détruire la ville, a-t-il poursuivi, ajoutant qu'ils refusent d'assister passivement à ce que Alep Est se transforme en nouveau Srebrenica ou en nouveau Rwanda.
Le secrétaire général Ban Ki-moon a annoncé mercredi que l'accord de Paris sur le changement climatique entrerait en vigueur le 4 novembre prochain. Une entrée en vigueur rendue possible par le fait que les 2 seuils fixés pour y parvenir ont été franchis. La ratification par au moins 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Jérôme Longuet.
Paris gagné. L'accord de Paris sur le changement climatique. Entrera en vigueur avant la fin de cette année, le 4 novembre pour être précis. Une annonce dont se réjouit Ban Ki-moon qui relève l'élan mondial remarquable pour y arriver. Le secrétaire général a aussi estimé que le soutien international fort pour obtenir cette entrée en vigueur reflète le consensus au sein des gouvernements selon lequel une solide coopération mondiale est essentielle pour relever le défi climatique. Adopté par les 195 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 12 décembre dernier à Paris, l'accord a été signé le 22 avril suivant à New York par 175 pays. Il était censé entrer en vigueur 30 jours après le dépôt des instruments de ratification par au moins 55 pays, représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'accord appelle les pays à lutter contre le changement climatique en visant une limitation de la hausse de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et à s'efforcer de ne pas dépasser 1,5 degrés Celsius.
Une table ronde a été organisée ce jeudi au siège à New York pour marquer la journée internationale des personnes âgées. Célébrée le 1er octobre, la journée avait pour thème cette année « Prendre position contre l'âgisme ». Une exhortation à réfléchir aux préjugés et discriminations fondées sur l'âge qui ont de graves effets négatifs sur la santé physique et mentale des personnes âgées. Les explications d'Alana Officer, conseillère principale pour la santé à l'OMS.
On subit en fait au niveau des sociétés les attitudes négatives. On sait qu'un enfant de 4 ans connaît déjà comment la société pense au niveau des personnes âgées. Et pendant la vie, on efface ces attitudes négatives et petit à petit, on les prend nous-mêmes comme la vérité. Il y avait une très bonne recherche qui était faite par un chercheur, Becky Levy, de Yale University, qui montrait que les personnes âgées qui ont une attitude négative vis-à-vis de leur propre vieillissement ne se rétablissent pas aussi bien quand ils ont expérimenté des incapacités et vivent, et ça c'est super important, et qui vivent en moyenne 7,5 années de moins que celles ayant une attitude plus positive.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
L'ouragan Matthew a affecté toute la partie méridionale d'Haïti, mais aussi le nord-ouest du pays. Selon les premières estimations, 1,5 million de personnes ont été affectées et 350 000 ont besoin d'une aide humanitaire. Pour le moment, les populations dans les zones touchées sont coupées du reste du pays et de l'aide. Pour en savoir plus sur la situation sur place, Cristina Silvero a joint Enzo Di Taranto, chef du bureau de la coordination humanitaire de l'ONU en Haïti.
On n'a pas encore pu survoler les communautés affectées par la tempête Matthew. Il y a eu un vol militaire sur lequel on a pu envoyer un spécialiste assistance du terrain pour voir s'il est possible d'établir des centres opérationnels dans les départements affectés. Mais l'avion n'a pas pu atterrir, donc il y a seulement une idée des dégâts à travers la vision aérienne.
Alors, le vol n'a pas pu atterrir, mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée des dégâts?
Absolument. L'ouragan a touché toute la partie méridionale d'Haïti, le sud, la Grande-Anse et Nice. Mais hier matin, l'ouragan a aussi touché la partie nord-ouest, avec lequel, jusqu'à hier soir, pas pu établir aucune communication. Donc, en ce qui concerne la partie nord-ouest, on n'a pas de données du tout jusqu'à moment. Toutefois, pour le sud, on a pu confirmer qu'il y a eu des dégâts majeurs au niveau du territoire. Il y a des chiffres de 8 victimes, mais ce sont des données très, très préliminaires.
Vous avez parlé d'au moins 8 victimes, un chiffre, on s'attend à ce qu'il monte. Mais combien de personnes sont affectées pour l'instant?
Jusqu'à hier soir, on a une estimation de 1,5 million de personnes affectées, avec environ 350 000 personnes en besoin d'assistance humanitaire. Ce sont des chiffres communiqués par le département de la protection civile du gouvernement provisionnel haïtien.
Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce jeudi?
On a reçu une mission du spécialiste d'évaluation pour les opérations post-disaster. Et cette équipe, si les conditions météorologiques et de sécurité le permettent, ira sur le terrain et nous donnera un compte-rendu plus précis de la situation. Donc, en principe, le plan, c'est d'établir deux centres d'opération en coordination avec la mission de maintien de la paix MINUSA, un à Lekai et l'autre à Jérémy. Mais le pont sur la route de Petit Goave au sud du pays est collapsé à cause des forts vents que l'ouragan a produits et l'accès terrestre aux communautés affectées ne serait pas possible. Donc, OCHA coordonne l'identification d'alternatives routières pour établir les routes éventuellement pour utiliser pour livrer de l'assistance humanitaire aux populations affectées. Entre-temps, on a coordonné avec la MINUSTA, la seule entité en Haïti avec une capacité de transport aérien, la livraison du premier bien de secours, mais cette capacité est très limitée, donc on ne pourra pas vraiment tout de suite livrer une assistance massive aux populations affectées.
Et c'est avec Enzo Di Taranto que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.
L'info se poursuit à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria dans l'émission Le Débrief. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 7 octobre, bienvenue dans l'émission. On va changer de perspective à présent. On passe de l'international au provincial. Je vous le disais d'entrée de jeu, on a la visite de la sénatrice Claudette Tardy plus tard dans l'émission. C'est une interview d'un peu plus d'un quart d'heure qu'on va vous livrer vers 16h40. On parle évidemment de la visite de Madame Tardy et de son comité permanent du Sénat sur les langues officielles. Donc c'est un comité qu'elle préside et elle est de passage en Colombie-Britannique pour étudier les défis relatifs à l'accès à l'éducation en français dans notre province. On peut citer dans cette portion de l'émission, dans cette portion provinciale, quelques lignes du papier qu'a publié Radio-Canada aujourd'hui sur son portail. Donc c'est un compte-rendu des discussions qui ont eu lieu du côté de Vancouver lundi et mardi dans le cadre de cette visite du comité sénatorial sur les langues officielles. Le titre qu'a choisi Radio-Canada, c'est « L'enseignement du français en Colombie-Britannique, une situation embarrassante ». C'est sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. Je vous en cite quelques passages. « Mieux outiller les enseignants pour l'enseignement du français en milieu minoritaire ». Offrir davantage de ressources aux jeunes et augmenter le financement de la petite enfance, voilà le constat présenté par les acteurs du milieu de l'éducation en français de la province de Colombie-Britannique lors des audiences publiques du comité sénatorial des langues officielles. Le comité s'est tenu mardi et mercredi à Vancouver pour discuter des enjeux relatifs à l'enseignement du français dans la province, aussi bien dans les établissements francophones que dans les écoles d'immersion. De nombreux acteurs issus du milieu de l'éducation et des groupes représentant les parents ont pu se prononcer sur la question. Il est urgent, selon les premières conclusions, de financer des services à la petite enfance en français et de mieux outiller les enseignants du système d'immersion française. Ce sont ces éléments qui représentent des obstacles pour une éducation de meilleure qualité dans la province. C'est ce qui ressort en tout cas des discussions survenues mardi et mercredi. L'article poursuit un constat que Marie-Andrée Asselin, la directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, confirme et déplore. Ici, en Colombie-Britannique, le ministère du Développement de la Petite Enfance et de la Famille, qui est en charge du secteur de la petite enfance, ne porte pas beaucoup de considération à tout ce qui est francophone. Sophie Bergeron, présidente de l'Association provinciale des professeurs d'immersion et du programme francophone de la Colombie-Britannique, se dit quant à elle satisfaite des échanges, mais admet que la situation dans la province est embarrassante. On parle à présent des épaulards, ou si vous préférez, des orques. Il y a un article intéressant, toujours sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. Les épaulards menacés connaissent un brin d'espoir en Colombie-Britannique. La plupart des épaulards nés en 2015 lors d'un baby boom dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique et le nord de l'État de Washington sont en pleine forme, ont constaté des observateurs de baleines. Cette classe de 2015, comme on l'appelle, qui vit en trois troupeaux dans la mer de Salish, est apparu à une époque où la population de baleines locales semblait décroissante. En 2014, par exemple, seuls 77 épaulards étaient dénombrés dans les eaux de la région. Cependant, depuis l'apparition de la femelle surnommée J50, le 30 décembre 2015, dans la baie de Puget, au large de l'État de Washington, les scientifiques ont dénombré la naissance de 9 autres de ces mammifères marins. Cette population d'orques est maintenant florissante, selon un chercheur qui est interviewé dans cet article. Plus loin dans ce papier, on invite toutefois à la prudence, car on a constaté, bien sûr, un déclin de la population de saumons, dont s'alimentent bien sûr les orques, et cela pourrait avoir un impact sur la survie du troupeau. Mais il y a néanmoins des signes encourageants. Vous pouvez consulter cet article paru sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui, en date du 6 octobre, c'est sur la page d'accueil. Je me transporte maintenant sur le portail du quotidien Vancouver Observer pour vous mentionner la lettre qu'ont fait parvenir 30 groupes environnementaux, sociaux et autochtones à la première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark. La lettre qu'ont fait parvenir ces groupes concerne le projet Kinder Morgan. C'est un projet de pipeline qui part de l'Alberta et se rend jusqu'à Burnaby pour alimenter des pétroliers format géant. Donc c'est un pipeline qui existe déjà, mais dont la compagnie souhaite tripler la capacité. Vous connaissez sans doute ce dossier. Bref, il y a 30 organismes qui ont écrit à la première ministre Clark pour l'aviser qu'elle ne serait pas en mesure de que la compagnie ne serait pas pas en mesure de rencontrer les 5 conditions qui ont été imposées par la province de Colombie-Britannique, notamment concernant les accidents, les déversements. Donc, ces organismes qui ont écrit la lettre signalent à Christy Clark que Kinder Morgan serait incapable de mener des opérations de sauvetage adéquates, des opérations de récupération en cas de catastrophe et de déversement. Donc, et ces groupes signalent par ailleurs que le produit pétrolier qui est distribué par ce pipeline, c'est du bitume très lourd et le récupérer est pratiquement impossible. Donc, vous trouverez cet article sur le portail du VancouverObserver.com. On trouve le sujet ailleurs sur la toile si cela vous intéresse. Donc le pipeline Kinder Morgan Trans Mountain qui continue de nourrir l'actualité, bien sûr. On a aussi un papier que je tenais à vous signaler dans le portail de CBC aujourd'hui concernant la renaissance du secteur de la rue Fort ici à Victoria. Donc le secteur de la rue Fort entre Douglas et Quadra et même un petit peu plus loin est en train de renaître. C'est du moins ce que pensent les développeurs immobiliers, donc les investisseurs immobiliers. C'est un quartier qui est en transformation. Il y a eu beaucoup d'investissements. On signale notamment la construction d'une tour qui va héberger des personnes âgées. Plusieurs logements sont construits actuellement. Donc, ce qu'on connaissait auparavant est en train de se métamorphoser du côté de la rue Fort. Ça fait l'objet d'un papier dans le portail de cbc.ca aujourd'hui. On s'arrête quelques instants pour aller en musique. On va écouter une pièce qui est très entendue, qui est en rotation lourde, si vous voulez, ces temps-ci à CILS. C'est une nouvelle pièce de l'artiste Fred Fortin qui s'intitule « Oiseau ». On se retrouve dans quelques minutes pour les nouvelles du jour.
J'écoutais le chant des oiseaux, je regarde vers le ciel. Je reconnaissais le corbeau, c'est assez universel. Qu'attends-tu au bout du poteau, devant moi qui n'a pas d'aile? T'as pas l'air de me trouver bien beau. J'ai pas de plume, juste un peu de poil. J'avance à lâcher dans la neige.
semblant voyager. J'écoutais le chant des oiseaux et tu t'es mis à crier. Non, mais prends-tu pour un idiot. Je vois bien que tu sais pas chanter. Mais y a quelque chose qui me marche, je sais pas si je devrais te dire. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai voulu me fabriquer des ailes. J'ai sauté de mon toit pour aussitôt atterrir. C'est tout naturel. J'ai pas peur, juste un peu de poil.
Fred Fortin dans le débrief à 16h29. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. On passe à la nouvelle du jour, aux nouvelles du jour plutôt, pluriel. J'en ai quelques-unes à vous signaler dans le cadre de ce segment de l'émission. On commence par des excuses prononcées par la GRC. Harcèlement, la GRC s'excuse et annonce une entente à l'amiable. C'est un peu partout dans les médias aujourd'hui. Je vous cite quelques passages d'un article paru dans la presse. C'est un article composé avec la presse canadienne. Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, Bob Paulson, souhaite tourner la page sur un chapitre noir de l'histoire de son organisation en présentant des excuses formelles aux centaines de femmes qui affirment avoir été victimes de harcèlement sexuel, d'intimidation et de discrimination au cours de leur carrière au sein de la GRC. Bob Paulson a présenté ses excuses aux victimes aujourd'hui jeudi, à Ottawa, et a du même souffle confirmé qu'une entente majeure à l'amiable a été conclue entre la GRC et les avocats des plaignantes qui ont intenté un recours collectif pour obtenir réparation et mettre fin au climat malsain au sein de la GRC. En tout, quelques 500 victimes. Alors, c'est un chiffre énorme. 500 victimes ont joint leur voix à celle de Jeanette Merlot et Linda Gillis Davidson, deux ex-membres de la GRC qui avaient intenté ce recours collectif il y a maintenant 5 ans. Ces femmes et toutes les autres agentes ou employées de la GRC qui auraient été victimes de harcèlement auront droit à une compensation qui pourrait atteindre 225 000 $ selon la gravité des événements. En tout, la GRC estime à 100 millions de $ la somme qui pourrait être versée aux différentes victimes. C'est l'ancien juge à la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, qui s'est vu confier le mandat de gérer le fonds qui servira à indemniser ses victimes. Bob Paulson était entouré de Jeanette Merlot et Linda Gillis Davidson durant la conférence de presse aujourd'hui. Il était aussi accompagné du ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, et de la ministre du Travail, Marianne Mihichuk. Madame Merlot a pris la parole après Bob Paulson, déclarant qu'il s'agit d'un grand jour pour la GRC et remerciant le commissaire au nom des autres femmes représentées dans cette action collective. Elle souhaitait simplement travailler dans un lieu meilleur, a-t-elle souligné. Pour elle, je suis très reconnaissante que ce jour soit enfin arrivé, a déclaré à Jeanette Merlot lors de la conférence de presse. Donc, cette nouvelle est un petit peu partout dans les médias, on la trouve facilement. Je passe maintenant à une nouvelle qui nous arrive d'Alberta. L'Alberta ne s'unira pas à d'autres provinces pour s'opposer à la taxe carbone du gouvernement Trudeau. Alors, le doute planait, la réponse est tombée. La première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, n'est pas intéressée à faire front commun avec d'autres leaders provinciaux pour lutter contre l'imposition d'une taxe carbone annoncée par Ottawa il y a quelques jours. Les premiers ministres de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse, Brad Wall et Stephen McNeill, respectivement, ont vivement critiqué le projet du gouvernement libéral d'imposer une taxe de $10 par tonne de carbone à compter de l'année 2018. Rachel Notley a précisé que l'Alberta n'appuierait pas la taxe tant que le gouvernement fédéral ne ferait pas progresser les nouveaux projets d'oléoduc vers les côtes canadiennes. Donc, il y a un petit élément de négociation, là, pour ne pas dire de chantage. Donc, c'est une nouvelle qu'on peut accueillir avec un grain de sel. Ça n'est pas nécessairement une une adhésion de l'Alberta au mécanisme de la taxe carbone. En tout cas, c'est mieux que rien. Je vous lis le dernier passage. Après un discours donné devant les représentants des municipalités de sa province jeudi matin, Rachel Notley a déclaré n'avoir aucun intérêt à faire équipe avec les premiers ministres de Saskatchewan et de Nouvelle-Écosse parce que l'Alberta appuie en principe l'idée d'une taxe nationale sur le carbone. Toujours à propos d'émissions de GES, de carbone et de changement climatique, vous le savez sans doute, je le mentionne par formalité et par principe, nos députés à Ottawa ont approuvé l'accord de Paris qui avait été, qui était intervenu fin 2015, un grand rendez-vous mondial auquel s'était rendu Justin Trudeau. Il était tout juste élu, fraîchement élu premier ministre. Donc cet accord sur le climat a été approuvé formellement. Je vous lis quelques passages de l'article de la presse canadienne. Les députés des communes ont voté mercredi en faveur de la ratification de l'accord de Paris sur le climat, mais la motion n'a pas eu l'appui de l'opposition officielle. L'approbation de l'accord par le Canada survient le jour même où le seuil de ratification nécessaire pour que ces dispositions entrent en vigueur a été atteint. En milieu de journée, c'est en effet 73 pays cumulant 56,9% des émissions de gaz à effet de serre planétaire qui avaient donné leur aval au premier accord universel sur le climat. Le document sera ainsi mis en œuvre dans 30 jours, le seuil des 55 pays responsables de 55% des émissions étant désormais dépassé. Ce sera juste à temps pour l'ouverture de la conférence numéro 22, la COP22, au Maroc au mois de novembre. Une forte majorité de députés de la Chambre des communes ont voté en faveur de l'accord, 207 contre 81. On retourne en musique, on fait une toute petite intermède musicale, on se retrouve de l'autre côté pour la revue de presse des éditoriaux. Alors, les pauvres éditoriaux, c'est toujours eux qui subissent le couperet lorsque le chronomètre nous impose d'aller plus vite dans l'émission. Donc, je vais essayer de vous en mentionner quelques-uns quand même. Donc, je commence avec un article publié dans le journal Métro de Vancouver. C'est sur metronews.ca, donc la section vancouveroise du grand portail d'info Metro News. On y parle d'un artiste autochtone de la Colombie-Britannique qui appelle à faire changer le nom de la province de Colombie-Britannique. Il s'agit d'un artiste qui s'appelle Lawrence Paul Yuxweluptum. Il est exposé actuellement au Musée de l'anthropologie de Vancouver. Il fait l'objet d'une rétrospective dans ce musée prestigieux et il a profité de la tribune pour appeler au changement de nom de la province. C'est un petit peu selon le même principe qu'on avait changé le nom des îles Charlotte pour les appeler Haida-Gwaii, rappelez-vous, et qu'on appelle la mère de Salish, on avait ajouté ce nom en remplacement d'un ancien nom qui était plus colonial. Donc c'est le même esprit, c'est le même principe. Cet artiste appelle à changer le nom de la province. Il a même lancé un hashtag sur Twitter. Je crois que c'est Rename BC pour mémoire. Donc c'est une démarche intéressante qui soulève bien sûr des questions. C'est très sain de discuter en 2016 du nom de cette province qui conserve une marque très colonial. Ça n'est pas le cas d'autres provinces du Canada. C'est vraiment la province, peut-être avec l'île du Prince-Édouard, c'est vraiment la province qui conserve un nom vraiment, vraiment très, très colonial. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Cet artiste croit que c'est archaïque. Et ses arguments sont assez intéressants. Donc, c'est du côté de metronews.ca dans la section vancouveroise du portail. Alors, le temps file. Je voulais vous mentionner également ce papier d'opinion paru dans le portail Ricochet, côté anglophone de ce portail indépendant canadien. Donc, si vous avez une sensibilité pour la cause environnementale et que vous avez voté pour Justin Trudeau l'année dernière, vous avez, selon cet éditorial paru dans Ricochet, été trahi. Donc, vous avez été berné par les promesses du gouvernement Trudeau, par les promesses de l'équipe libérale lors de la campagne. C'est ce que soutient en substance cet éditorial publié par Ricochet sous la plume de Brad Hornick. Donc, Brad Hornick rappelle dans un bouquet, dans une liste, toutes les promesses qu'a brisé le gouvernement libéral en seulement un an au pouvoir. Il mentionne, bien sûr, la promesse voulant que le Canada allait réviser sa politique environnementale. Ça n'a pas été fait. Il rappelle que le gouvernement a nommé des commissaires qui avaient des liens avec l'industrie énergétique pour évaluer un projet de pipeline, à savoir le Trans Mountain. Le chroniqueur rappelle aussi que le Canada n'a toujours pas mis en œuvre la déclaration des droits des peuples autochtones. C'était une promesse de 2015, rappelez-vous. On rappelle aussi que le gouvernement Trudeau a donné son feu vert au méga projet gazier Petronas qui fait grimper les émissions de carbone de la province de Colombie-Britannique, bien sûr, et celle du Canada de façon très importante. Et on mentionne aussi le site C, ce barrage hydroélectrique auquel le gouvernement Trudeau a donné son accord. Bref, ce chroniqueur n'est pas content du tout, il n'est pas impressionné. Il fait écho à la déception de nombreux Canadiens qui ont voté pour l'équipe libérale l'année dernière sur la base des promesses que formulait la plateforme libérale. Donc voilà, à lire sur ricochet.media côté anglais. Alors, on s'arrête tout de suite. Je voulais aussi vous mentionner cet édito signé Manon Cornelier dans le journal Le Devoir. C'est un édito qui est favorable, lui, au gouvernement Trudeau. Donc, ça parle de la taxe carbone. Si vous voulez le consulter, c'est sur le site ledevoir.com. Le temps nous manque. On y reviendra peut-être lundi dans la prochaine édition du débrief. Pour le moment, c'est l'interview du jour. Je vous le disais en ouverture d'émission, on a la chance de s'entretenir aujourd'hui avec la sénatrice Claudette Tardif. C'est une franco-albertaine d'origine qui nous a rendu visite aujourd'hui en personne à CILS FM 107,9 ici dans nos studios de la rue Yates à Victoria. Donc restez à l'écoute, c'est dans quelques instants à l'antenne de CILS. Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Merci d'être à l'écoute du débrief, votre rendez-vous d'infos de fin de journée en semaine du lundi au jeudi. On a de la grande visite aujourd'hui à l'émission, la sénatrice Claudette Tardif de l'Alberta. Elle préside le comité sénatorial aux langues officielles à Ottawa. Elle est en Colombie-Britannique actuellement pour démarrer les travaux d'un comité sénatorial qui va se pencher sur le cas particulier de la Colombie-Britannique. Bonjour Madame Tardif.
Bonjour Alexis.
Alors, qu'est-ce qui vous amène en Colombie-Britannique exactement?
D'abord, la Colombie-Britannique, c'est une province qui accueille davantage de francophones, je dirais, de divers pays qui se retrouvent en Colombie-Britannique. Et justement, lors de nos études précédentes, nous avons entendu plusieurs témoins nous dire que il y avait un grand intérêt pour le français, mais qu'il y avait quand même plusieurs défis liés à l'enseignement du français dans les écoles francophones, aussi bien que dans les programmes d'immersion française. Et notre rapport que nous avons publié en 2014, viser plus haut, augmenter le bilinguisme des jeunes Canadiens a été très bien reçu. Nous avons fait plusieurs recommandations et justement, on s'est dit, ce serait important de faire un cas d'étude et nous avons choisi la Colombie-Britannique.
Formidable. Comment avez-vous reçu le jugement Russell récemment, ce mois-ci, ou il y a fin septembre, qui est tombé justement dans le dossier de l'éducation en français? Quelle a été votre interprétation en tant que spécialiste de ces questions?
Bien, nous n'avons pas eu la chance réellement. C'est un jugement quand même de 1600 pages. Alors, ça prend du temps pour digérer toute l'information. Évidemment, c'est une victoire partielle, je dirais, pour les Franco-Colombiens. Il faudrait étudier davantage. Mais nous, ce que nous avons remarqué, nous avons fait plusieurs jours maintenant ici en Colombie-Britannique. Nous sommes arrivés dimanche soir. Lundi déjà, nous avons fait des visites de sites. Nous avons eu la chance de visiter l'école Rose des Vents, l'école Gabriel Roy et ensuite aussi des écoles d'immersion française. Aujourd'hui, nous allons faire la visite cet après-midi de l'école Brodeur. Alors, ce que nous avons remarqué, bien sûr, c'est qu'il y a des défis majeurs et les doléances que nous avons entendues, je pense, sont justifiées. Et ce que nous avons entendu, c'est un manque d'infrastructure, manque d'espace, manque d'espace, manque d'espace. Et là, nous l'avons entendu à plusieurs reprises qu'il fallait absolument investir davantage dans les infrastructures. Il y a un intérêt. Et nous perdons des étudiants, des élèves, parce que, justement, les parents choisissent d'autres options pour leurs enfants, soit une meilleure école au bord de la rue en immersion française ou une école en anglais. La question du transport, par exemple, c'est une question majeure. Ça faisait partie aussi de la décision de la Cour. Mais on voit qu'il y a réellement des défis majeurs. Et je pense que, finalement, dans notre rapport, on aura des recommandations importantes qui vont toucher tout le rôle important que doit faire les différents niveaux gouvernementaux, que ce soit au niveau provincial, au niveau fédéral. Évidemment, nous, on ne peut pas s'ingérer dans un domaine de juridiction provinciale, mais quand même, le gouvernement fédéral a un rôle de leadership à jouer, un rôle de leadership politique. Il y a des transferts de fonds qui se font du gouvernement fédéral aux provinces par rapport aux ententes avec les provinces en matière d'éducation, avec les communautés aussi, entente Canada-Communauté, dans l'enseignement de la langue de la minorité, par exemple. Donc, il faut absolument que ces argents-là soient bien investis et qu'il y ait une transparence. Est-ce que l'argent qui soit envoyé aux provinces soit réellement utilisé pour l'avancement de l'éducation en français et surtout pour les écoles de la minorité? Il semble y avoir un réel écart entre les écoles de la majorité anglophone et les écoles de la minorité.
Oui, c'est ce que semblait indiquer le jugement. On verra les mesures que prendront les gouvernements, les différents ordres des gouvernements, provincial et fédéral. Est-ce que cette étude de la Colombie-Britannique va porter davantage sur les écoles françaises ou portera-t-elle davantage sur l'immersion?
Nous étudions les deux, les deux cas, et certainement, il y a des défis des deux côtés. Oui. Alors, pour des différentes raisons. Alors, mm-hmm. Par exemple, en immersion française, là aussi, il y a une demande importante pour davantage d'écoles. Je trouve que le système de loterie que les parents en immersion doivent vivre, c'est inacceptable. Tout enfant, selon moi, et je pense selon plusieurs de mes collègues qui font partie du comité, devrait avoir accès à l'éducation dans les deux langues officielles du pays. Mm. Alors, la question que certains enfants ne peuvent pas avoir le choix d'étudier dans une des deux langues officielles du pays, je trouve que c'est inacceptable. Alors, le fait qu'il y ait une liste d'attente et qu'on ne puisse pas étudier, je trouve que c'est certainement pas un accès juste et équitable. Et cela me préoccupe énormément. Alors, pour en immersion, encore une fois, il y a plus de demandes qu'il y a d'espace. Donc, il faut faire quelque chose. Il y a aussi une pénurie d'enseignants. Nous avons entendu souvent toute la question de pénurie d'enseignants qualifiés en français. Et je pense que ça, c'est un problème et pour les écoles d'immersion française, mais je pense aussi pour les écoles francophones. La question aussi de ressources. Il semble y avoir aussi une pénurie de ressources, que ce soit au niveau de documents pédagogiques, de matériaux pour les bibliothèques. Il n'y a pas d'appui. Il semble y avoir beaucoup d'intérêt, mais très peu d'appui.
Oui, donc il faut vraiment que la volonté politique se manifeste. Est-ce que vous croyez que le français recule dans l'Ouest? Quel est votre sentiment?
Non, je dirais, nous avons vu, malgré tous ces défis et tous ces obstacles, ce que mes collègues, moi je connais peut-être un peu davantage la situation venant de l'Alberta, mais oui. Pour certains de mes collègues du Québec, aussi du Nouveau-Brunswick, par exemple, c'était réellement une surprise très agréable de voir la vitalité quand même des communautés francophones. On vit, les francophones vivent dans des milieux éparpillés, si oui. On veut disperser sur le plan géographique. Malgré des obstacles énormes et des défis énormes, ils réussissent quand même à créer une vie en français. On en perd beaucoup, il y a beaucoup d'assimilation, il n'y a aucun doute, mais quand même, on sent qu'il y a une vitalité, un intérêt pour le français et justement, on me dit ce matin, par exemple, que d'ici 10 ans, on pourrait doubler le nombre d'écoles élémentaires, par exemple, en français, doubler le nombre d'écoles secondaires en français. On pourrait les remplir d'ici 5 à 10 ans si on avait les espaces, selon le nombre d'ayants droit, par exemple.
D'accord.
Selon le nombre d'ayants droit et les statistiques qui pourraient démontrer qu'on pourrait les remplir, ces écoles-là. Si ils étaient construites, on pourrait les remplir. Alors, c'est certainement pas par manque d'intérêt.
À l'occasion des feux qui ont ravagé le nord de l'Alberta au printemps dernier, j'ai eu l'occasion de parler avec des francophones de l'Alberta. Il y a vraiment une communauté dynamique, une francophonie vivante en Alberta. Comment avez-vous fait pour maintenir un niveau de langue aussi impeccable? Comment fait-on pour vivre en français en Alberta? Pour moi, ça semble une frontière pour la langue. Là, ça semble pas être un environnement favorable à la survie des francophones. C'est mon préjugé. Donc, j'ai la surprise de vous entendre aujourd'hui et c'est une agréable surprise. Alors, comment on fait pour aujourd'hui, en 2016, vivre en français et faire sa vie en français?
Les défis en Alberta sont un peu les mêmes défis que vive la Colombie-Britannique. Oui. Je dirais que en Alberta, il y a quand même peut-être certaines ressources davantage. Il y a quand même une faculté francophone à l'intérieur de l'Université de l'Alberta, oui. Le campus Saint-Jean, qui offre des études postsecondaires, qui offre quand même plusieurs diplômes universitaires en français. Il y a quand même au niveau d'une concentration de francophones à Edmonton, il y a quand même à peu près 25 000 francophones à Edmonton, 22 000 à Calgary, un certain nombre au nord-est de la province. Donc, il y a peut-être un peu un avantage au niveau de la concentration géographique oui. des francophones, mais comme les franco-colombiens, il faut toujours être vigilant, il faut toujours travailler ensemble, créer une collaboration, une concertation, sensibiliser les leaders politiques, le gouvernement provinciaux, travailler avec eux, essayer de créer des partenariats, demander des subventions. Mm-hmm. Alors, c'est toujours pas facile, mais quand même, il faut dire qu'il y a des progrès. Si nous regardons dans les 20 dernières années, surtout avec le passage la section 23 de la charte qui a permis les écoles francophones, la gestion des écoles francophones. Nous avons maintenant plusieurs conseils scolaires francophones en Alberta, comme ici en Colombie-Britannique. Je crois qu'en Colombie-Britannique, il y a maintenant 38 écoles. Il y en a qui sont très petites. Oui. Il y en a qui sont plus grosses. Mais quand même, c'est quand même un progrès. C'est finissant là. Maintenant, on cherche des occasions de poursuivre des études postsecondaires en français. Il faut les bâtir, il faut les construire, il faut développer des programmes. On a eu la chance de rencontrer des professeurs de Simon Fraser University et aussi de UBC hier. Et il y a certainement un intérêt. Évidemment, il y a beaucoup de travail qui doit se faire, bien sûr, pour que les hautes directions de ces institutions-là soient sensibilisées aux faits français en Colombie-Britannique.
Oui.
Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais évidemment, c'est un travail énorme et je n'ai qu'à applaudir tous les associations, tous les intervenants, les parents, les directions d'école,
oui.
Les étudiants. Nous avons rencontré, par exemple, le conseil de la jeunesse de la Colombie-Britannique et je dois dire qu'on a été très émus par leur présentation. Des jeunes qui se sont dit, nous, on a pu garder notre langue, mais combien d'autres on a perdu?
Oui, voilà. Donc, le combat continue. En Colombie-Britannique, la dispersion est un élément vraiment qui caractérise la francophonie. Les implantations historiques sont peu nombreuses. Il y a Maillardville, par exemple. Donc, ça suppose des défis différents. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut développer face à cette dispersion, selon vous?
Et c'est certain que cette dispersion géographique joue un rôle important et ajoute davantage de défis. Je crois que il y a bien des choses qui se font, mais il faut un appui. Et je suis certain que dans nos recommandations pour le gouvernement fédéral, dans notre rapport, on ajoutera certainement cette question de comment peut-on mieux appuyer la francophonie, appuyer l'enseignement en français en Colombie-Britannique. Quel rôle le gouvernement fédéral peut-il jouer? Il faut dire que, justement, il y a maintenant des consultations qui se font un peu partout dans le pays pour le renouvellement du plan d'action pour les langues officielles, un nouveau plan d'action.
Oui.
Le plan présent termine en 2018.
Oui.
Et le gouvernement est en train de faire des consultations. Là, je pense que c'est très important de faire valoir cette francophonie en Colombie-Britannique et j'en suis sûre que les associations ont fait valoir leurs besoins et leurs nécessités. Nous allons renforcer cela.
Oui.
Mais c'est aussi le 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2018.
Oui.
Alors, je pense que c'est... En 2017, pardon.
Oui.
Et c'est un moment opportun, je pense, pour faire la promotion du bilinguisme au Canada. Et nous l'avons entendu...
Ils progressent pas beaucoup hors Québec. Les Québécois apprennent l'anglais, les Canadiens anglais n'apprennent pas le français.
C'est vrai. Il faut faire davantage. Mais il y a quand même cet intérêt. Et il faut dire que en immersion aussi, il y a des jeunes qui choisissent d'étudier en français. Et nous avons rencontré aussi des jeunes dans les programmes d'immersion, des jeunes asiatiques qui nous ont dit. Pour nous, être Canadiens, c'est de connaître les deux langues officielles du pays.
On envoie des jeunes en immersion ici à la station. Ils sont très gentils, mais ils ont du mal à s'exprimer en français, même en 9e, 10e, 12e année. Et c'est un peu triste parfois de constater qu'ils n'ont pas évolué en français. Donc, il faut faire des constats et être réaliste et puis regarder la réalité en face. Il y a eu des lacunes du côté de l'immersion. Je crois qu'on aime bien voir qu'on a fait immersion. Ça paraît bien dans un CV. C'est joli sur LinkedIn, mais les gens ne parlent pas français. Donc...
C'est une langue scolaire, finalement, pour eux, mais c'est là où l'importance d'offrir des activités parascolaires, les faire vivre des activités à l'extérieur de la salle de classe, des échanges culturels, des échanges avec d'autres étudiants, plus d'implication avec la communauté francophone, possiblement.
Voilà.
Alors, il faut créer des liens, il faut tisser, parce qu'une langue, c'est aussi une culture, il faut la vivre, il faut l'aimer, il faut leur donner l'occasion de voir des films en français, de rire en français, de s'amuser en français. Qui sait, de tomber amoureux en français?
Oui, voilà. Et finalement, peut-être en terminant, votre démarche en est encore à ses premières étapes ici en Colombie-Britannique. Aurez-vous l'oreille du gouvernement Trudeau, selon vous?
Notre rapport sera présenté au gouvernement avec nos recommandations et le gouvernement a 90 jours afin de donner sa réponse à notre rapport.
Alors, vous allez peut-être vitaminer l'élan qu'a donné Mélanie Joly à sa consultation, donner un petit peu de boost.
Absolument. Oui. Nous croyons dans cette francophonie. Nous croyons que tous les Canadiens devraient pouvoir parler les deux langues officielles du pays et certainement la francophonie ici en Colombie-Britannique fait des efforts majeurs pour faire vivre les jeunes en français et je veux que notre rapport souligne ce fait et que nous puissions réellement avoir des recommandations ciblées où le gouvernement fédéral pourrait jouer un rôle important de leadership et bien sûr travailler avec les provinces. C'est peut-être un grand défi là aussi d'avoir ce pouvoir politique de la part du gouvernement provincial, mais le rôle du gouvernement fédéral est certainement de peut-être favoriser davantage des rencontres avec les gouvernements provinciaux où ils pourraient être davantage motivés à appuyer la francophonie.
D'accord. Donc, ces recommandations seront remises fin novembre?
Nous verrons bien. Évidemment, il y a beaucoup de... Nous avons eu énormément de rencontres. Il faut faire préparation de retour à Ottawa. Il se peut aussi que nous voudrions faire venir davantage de personnes à Ottawa que nous n'avons pas pu rencontrer ici.
Sur la colline.
C'est cela, les faire venir sur la colline.
D'accord. Et le gouvernement aura 90 jours à partir de ce moment pour donner son avis, sa réaction.
C'est cela, mais il faut dire que c'est 90 jours lorsque le Parlement siège. Alors, c'est réellement plus que 3 mois.
D'accord.
C'est les jours là où la Chambre est en session.
D'accord. Claudette Tardif, un grand merci pour cette visite, Madame la Sénatrice. C'est de la grande visite ici à CILS FM 107,9. Au plaisir de se reparler dans l'avenir, peut-être lorsque on en saura plus sur la réaction du gouvernement sur ce rapport qui concernera la Colombie-Britannique.
Il m'a fait grand plaisir.
Merci. C'était la sénatrice Claudette Tardif, sénatrice de l'Alberta à Ottawa. Elle est présidente du comité sénatorial permanent sur les langues officielles. Alors voilà, c'est ainsi que se termine cette édition du débrief en date du 6 octobre. Merci de nous avoir suivis en direct ou en rediffusion. Excellente soirée à tous.